France Culture.
Et le journal vous est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Nous serons capables de vivre en paix dans ce pays. L'appel au calme du dirigeant syrien Ahmed al-Shara, alors que les massacres s'amplifient dans l'ouest du territoire, plus de 1000 civils alaouites exécutés en l'espace de quelques jours. Le nœud coulant se resserre autour de Taïwan. L'armée chinoise multiplie les menaces envers les séparatistes et n'exclut pas de prendre le contrôle de l'île par la force. Adieu l'autonomie énergétique de la Guyane. Total renonce à son projet de centrale photovoltaïque faute d'investissement accordé par l'État. Et puis c'est un monument du cinéma français qui fête ses 80 ans. Les Enfants du Paradis est sorti en mars 1945. Comment, pourquoi est-il devenu un objet de patrimoine? On en parle avec l'historien Christophe Gauthier dans une dizaine de minutes. C'est un bain de sang, un cauchemar et déjà plus d'un millier de morts dans l'ouest de la Syrie. Ça fait déjà 72 heures que des civils alaouites sont exécutés par les forces de sécurité du régime. On parle de massacres, de combats, de pillages du côté de Latakié, région d'origine du clan Assad. Ce matin, le président al-Shara a voulu calmer les esprits, Christian Chesneau, mais sans certitude dans ce contexte d'être entendu.
C'est un carnage qui rappelle les pires heures du régime déchu de Bachar el-Assad. Le bilan des victimes est incertain et encore provisoire, mais il dépasserait les 1000 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, essentiellement des civils. Les récits de ces meurtres de sang-froid se multiplient et réveillent les vieilles haines confessionnelles. Ce matin, Ahmed al-Shara, le maître du pouvoir à Damas, s'est exprimé à la sortie d'une mosquée de la capitale. Il a appelé à l'unité nationale et à la paix intérieure. « Nous pouvons vivre ensemble », a-t-il martelé, mais sera-t-il vraiment entendu? Aujourd'hui, on enterre les morts dans un pays alaouite sous le choc, explique cette Syrienne originaire de Jablay, localité qui n'a pas été épargnée par les massacres.
Ça fait 3 jours, enfin, ils ne s'arrêtent pas, ils pillent tout, ils volent tout, ils tuent les gens, enfin, c'est vraiment une barbarie totale, quoi. Je pense pas que ça se passait comme ça, je peux pas parler de la paix enfin, avec une telle barbarie. Contre des civils qui portent pas des armes. On avait très peur de ça, mais on a voulu croire. Et je pense que ça marche pas. Je sais pas qu'est-ce qui reste moralement, la confiance, elle est rompue.
À ce stade, les affrontements se poursuivent dans le pays alaouite, plongé dans une situation quasi insurrectionnelle, un défi autant politique que sécuritaire pour le nouveau pouvoir islamiste de Damas.
Christian Chesneau pour France Culture. De nouveaux bombardements à Gaza. L'armée israélienne affirme avoir visé, je cite, des terroristes qui menaçaient ses troupes dans le nord de l'enclave. Et ce, alors que le Hamas se prépare pour la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu. Une délégation ira demain à Doha négocier les termes de l'accord. Un nœud coulant qui se resserre autour de Taïwan. Une épée tranchante au-dessus de sa tête. Un précipice au bord de la falaise. La porte-parole de l'armée chinoise multiplie les métaphores menaçantes à l'adresse des séparatistes à l'occasion d'un grand rassemblement politique à Pékin. Explication Dominique André.
L'avertissement de l'armée chinoise a été lancé dans l'enceinte du Palais du Peuple à Pékin lors du principal rendez-vous politique de l'année. L'Armée populaire de libération est une force d'action dans la lutte contre le séparatisme et la promotion de l'unification, a lancé son porte-parole, qui a utilisé un vocabulaire terrifiant. Plus les séparatistes pour l'indépendance de Taïwan deviendront envahissants, plus le nœud coulant autour de leur cou se resserrera et plus l'épée au-dessus de leur tête sera tranchante. Wu Tian vise les partisans de l'indépendance de Taïwan. « Vous avez conduit, dit-il, votre monture jusqu'au bord de la falaise. Si vous persistez, vous vous retrouverez dans une impasse. » Le régime communiste chinois considère que Taïwan est l'une de ses provinces qui doit rejoindre la mère patrie. Ce rendez-vous politique a été l'occasion d'annoncer une nouvelle hausse de 7,2% du budget de la défense en 2025. Le deuxième budget militaire mondial est cependant loin de celui des États-Unis. À la Maison-Blanche, Donald Trump, qui a pourtant la Chine dans son viseur commercial, reste évasif en ce qui concerne l'avenir de Taïwan.
La Chine qui indique mener des exercices militaires conjoints avec l'Iran et la Russie. Objectif, renforcer la sécurité des côtes iraniennes. Un bouffon sous kétamine. Voilà un surnom qui ne devrait pas plaire à Donald Trump. Pourtant, c'est bien lui qui est visé dans ce discours du Sénat. Sénateur français Claude Malhuret. C'était lors d'un débat consacré à l'Ukraine en milieu de semaine, mais la vidéo est devenue virale aux États-Unis, diffusée sur CNN et vue, Loïc Loury, plus de 600 000 fois sur YouTube.
Jamais dans l'histoire, un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi.
Never in the history of
Claude Malluret, traduit en anglais sur la chaîne CNN, « Arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire », titrait le Huffington Post américain, pour regarder l'intervention de ce sénateur français.
Washington est devenu la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre. Mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis.
600 000 vues sur YouTube en 4 jours. Les paroles de Claude Malluret ont été remarquées outre-Atlantique. Un discours puissant, dit une éditorialiste du New Yorker, en se demandant surtout pourquoi l'opposition aux États-Unis se montrait incapable de parler avec autant de clarté et de force. Au sein de la gauche américaine, l'attaque cinglante du sénateur français fait ainsi figure d'exutoire dans un pays où les démocrates n'ont sans doute pas était à la hauteur depuis l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche, toute la question étant de savoir si le discours de Claude Malluret est parvenu jusqu'aux oreilles du président.
Loïc Loury à New York pour France Culture. 195 millions d'euros pour l'Ukraine et ce sont les Russes qui payent. Le ministre français des Armées annonce qu'il va utiliser les intérêts des avoirs russes gelés depuis le début de la guerre pour livrer des obus et des bombes à l'armée ukrainienne. C'est déjà ce qui avait été fait l'an dernier. Mais le gouvernement français refuse toujours d'aller plus loin et de saisir le capital des avoirs en question, 200 milliards d'euros au total. C'est un coup dur pour la Guyane. Total Energy abandonne son projet de centrale photovoltaïque à Macouria, près de Cayenne. Initiée en 2019, elle devait être mise en route d'ici 2 ans et contribuer à l'autonomie énergétique du territoire. Le projet tombe à l'eau faute d'investissement, Antoine Geoffin.
Total se dit contraint de prendre la décision d'abandonner Maya, un de ses plus grands projets d'énergie renouvelable en France, ce qui aurait été la plus grosse centrale photovoltaïque d'outre-mer, 200 millions d'euros d'investissement. Pourquoi ce revirement ? Eh bien, c'est lié à la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce document, publié à la mi-février, qui donne la feuille de route énergétique de la France sur la période 2025-2035. Or, cette PPE indique qu'il n'y a pas besoin de plus de moyens de production de puissance pilotable autour de Cayenne. Autrement dit, les autorités estiment que les batteries, qui auraient pu stocker 240 MWh d'électricité et donc couvrir l'alimentation électrique de Cayenne la nuit, ne sont pas indispensables. À la poubelle aussi, les économies d'émissions de CO2, 150 000 tonnes par an, promettaient Total, les 32 emplois, exploitation et maintenance liés à Maya. La mairie de Macouria fait part de sa grande amertume et assure que la Guyane n'a pas le luxe de se priver d'un tel projet.
Antoine, je fin. Alerte tétra en danger. Cet oiseau des montagnes est menacé d'extinction en France. L'an dernier, 9 grands tétras originaires de Norvège avaient été réintroduits dans les Vosges. 7 sont morts et alors qu'un projet prévoit l'arrivée de nouveaux tétras, le sujet cristallise des tensions entre associations et institutions. Prune Benedini.
Les deux parties ne sont d'accord ni sur les chiffres, ni sur les mots. Le parc naturel des Ballons des Vosges, soutenu par l'État, espère renforcer le peu d'oiseaux encore présents. Mais les associations dénoncent des chiffres erronés. Selon elles, il n'y a plus de grands tétras dans la région. Il était inutile de vouloir les réintroduire. Dominique Imbert, président de SOS Massif des Vosges.
Dès l'instant où une espèce disparaît d'un lieu, on ne peut envisager une réintroduction que lorsqu'on a identifié les raisons de la disparition et qu'on a agi sur ces raisons. C'est l'habitat du tétra, c'est le réchauffement climatique, c'est le fait que la montagne vosgienne est une montagne qui est traversée de façon intensive par l'être humain. Or, aucune de celles-ci n'a été prise à bras-le-corps pour tenter une réintroduction.
6 associations locales ont déposé pour la 2e fois un recours contre l'opération, mais l'année dernière, la justice avait donné raison à l'État. Malgré un bilan en demi-teinte, Olivier Claude, directeur du parc des Ballons des Vosges, assume un projet de la dernière chance.
L'idée, c'est d'être sur une opération exploratoire, évolutive, et donc c'est année après année qu'on peut tirer des conclusions et avancer, quoi. Donc moi, je ne sais pas de quoi sera fait l'année prochaine. On ramènera peut-être beaucoup d'oiseaux, ça marchera peut-être bien, ça marchera peut-être pas bien, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas sur une année qu'on peut tirer des conclusions définitives.
Si le recours déposé par les associations n'aboutisse pas, une quarantaine de tétras renforceront le massif des Vosges le mois prochain. Le projet devrait durer 5 ans, voire être prolongé.
Ah, vous avez souri. Je m'appelle Frédéric.
Alors au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, pariez grand, vous avez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Mars 1945, nous sommes au sortir de la guerre et le tout Paris du cinéma se presse devant le théâtre Chaillot pour la première des Enfants du Paradis. Nous sommes 80 ans après sa sortie et ce très long film, plus de 3 heures de Marcel Carnet et Jacques Prévert, reste et est devenu un chef-d'œuvre, voire le chef-d'œuvre du cinéma français. Bonjour Christophe Gauthier.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes historien du cinéma, enseignant à l'école des Chartes. Ce film, Les Enfants du Paradis, il n'a pas été érigé en chef-d'œuvre, c'est dès sa sortie, en fait, dès le 2 mars 1945, qu'il est acclamé, reconnu comme tel.
Oui, c'est ça, en fait, Les Enfants du Paradis est vraiment considéré, dès cette avant-première, hein, donc nous célébrons le 80e anniversaire, comme vraiment le chef-d'œuvre du cinéma français, et aussi, c'est évidemment très important dans le contexte d'une France qui est encore en guerre, hein, je rappelle que le monde est encore en guerre en mars 1945, comme le film de la Renaissance du cinéma français, et donc un symbole, je dirais, de ce qu'on appellerait aujourd'hui, le mot n'existe pas à l'époque, la résilience, en fait, du cinéma français, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale.
À l'époque, on dit que c'est le film de la libération. Pourtant, ça n'est pas un film sur la libération. Il a été tourné en grande partie sous l'occupation et raconte en fait une époque plus ancienne. Ce qui a plu finalement, c'est plutôt cette idée de continuité du cinéma français malgré la guerre.
Oui, c'est ça. C'est un film qui n'aborde pas du tout la question de la Seconde Guerre mondiale. S'il doit y avoir un film donc sur la libération, c'est plutôt La Bataille du Rail, hein, quelques mois plus tard de René Clément. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un film qui, de surcroît, a été tourné en 1943-1944. Donc la France est encore occupée dans des conditions extrêmement difficiles, sans matériel, sans suffisamment de films. Il a fallu déplacer le lieu de tournage. On a commencé à la Victorine, on a continué à Paris, dans les studios de la rue Francoeur. Et finalement, la guerre évoluant, Marcel Carnet fait tout pour retarder, c'est en tout cas ce qu'il dit dans ses mémoires, la sortie du film, de manière à ce que ce film soit en quelque sorte le premier film français à sortir après la libération. Et donc à construire en quelque sorte ce film comme un objet qui soit justement ce film de la Renaissance. Et puis, comme le disent les critiques de l'époque, et en particulier le grand historien du cinéma et critique de cinéma Georges Sadoul, le film de la Renaissance française, un film profondément français parce qu'il s'ancre dans une histoire française, celle du théâtre du 19e siècle, qui joue aussi avec le roman feuilleton, avec ces grands comédiens. N'oublions pas que le film est animé par de grandes comédiennes et de grands comédiens. Et puis avec cette collaboration à son sommet, déjà connue de l'ensemble des observateurs de la chose cinématographique, entre Marcel Carnet et Jacques Prévert, son scénariste.
Mais est-ce que l'idée du coup c'est de dire que le cinéma français n'a pas souffert de la guerre ?
Alors oui, l'idée c'est quand même de dire que justement le cinéma français, malgré les circonstances, malgré l'occupation, est un cinéma qui c'est non seulement relever, c'est là où il y a une petite ambiguïté, c'est relever de la guerre, mais tout en étant parfaitement conscient que le film a été tourné pendant la guerre et que par conséquent, le cinéma aurait surmonté l'adversité, en quelque sorte. Contre d'ailleurs ce qui commence à devenir une menace dans l'esprit du cinéma français à l'époque, à savoir le cinéma américain qui revient sur les écrans français à la libération, alors que les Français en avaient été sevrés, justement, pendant 4 ans.
Et c'est un film qui traverse le temps, qui va être reconnu même après par les artistes de la Nouvelle Vague. C'est Truffaut qui dit, et qui n'est pas réputé pour aimer le cinéma de Carnet, qui dit « J'ai fait 23 films et je les donnerai tous pour avoir fait Les Enfants du Paradis ».
Oui, alors c'est une déclaration tardive de Truffaut, mais il n'en reste pas moins que, en effet, Truffaut a beaucoup conspué le cinéma de Carnet, plutôt des années 50, 60, plutôt les années 50. Mais il n'en reste pas moins, oui, que le film est d'emblée considéré comme un classique, est considéré par toutes les générations qui ont suivi, comme en quelque sorte le point un peu d'incandescence de ce cinéma classique français, je mets des guillemets en fait à la notion de classique, et il reste par conséquent inscrit dans les mémoires, y compris jusqu'à son classement en 1995 comme le meilleur film français de tous les temps par un arrêt aux pages de critique au moment du centenaire du cinéma.
En quelques mots, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui, au-delà de son succès à l'époque, en fait aujourd'hui encore un objet de patrimoine?
Alors, c'est un objet de patrimoine parce que, en fait, c'est un film qui, je pense, fédère à la fois le meilleur des comédiens, le meilleur des techniciens, le meilleur des scénaristes, dans un contexte où, en plus, on en a fait un objet, et ça, c'est resté aujourd'hui, encore une fois, un objet de gloire. On parle du champ de gloire du cinéma français, en réalité, immédiatement, après la libération du territoire.
Merci, Christophe Gauthier, d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire du cinéma et enseignant à l'école parole de Chartres. Le temps pour ce dimanche va rester couvert sur l'ensemble du territoire. On entend de la pluie un petit peu partout, de l'orage même sur les Pyrénées. Les températures sont tout de même plutôt douces. Il fait 12 degrés à Brest, 13 à Rennes, 14 à Lyon, 16 à Marseille et à Nice.